Nous nous acheminons vers Pâques, qui va arriver bientôt. Nous sommes à mi-chemin, là. Mais ce soir, je n'ai pas choisi un texte de Pâques, mais plutôt de Noël. Alors on me dirait, oh, c'est un peu bizarre. Mais comme les traditions et les tons sont dépassés par la parole, c'est surtout la rencontre qui m'interpelle. Et vous savez que depuis même plusieurs années, je peux le dire, eh bien, je m'intéresse et je suis interpellée dans la parole par les rencontres. Et c'est comme ça qu'on a pu voir ensemble la rencontre de Jésus et Zachée, avec le jeune homme riche, avec la femme qui est venue déverser de l'huile à ses pieds, la rencontre des disciples, etc., etc. Et ce soir, encore une rencontre, une autre rencontre qui fait écho à nos rencontres à nous. Et on voit comme des rencontres qui peuvent sembler banales peuvent devenir extraordinaires, peuvent porter tout un mystère et peuvent comporter ainsi toute une dimension que peut-être nous ne reconnaissons pas tout de suite ou que nous ne voyons pas. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup touchée et c'est de cette rencontre que j'aimerais vous parler. Le texte est très, très connu. Alors, je vais vous le lire tout simplement. On ne va pas l'afficher. Je vais vous le lire. Vous allez tout de suite le reconnaître et je vous invite à le recevoir. C'est un peu difficile de le faire de cette manière-là, mais à le recevoir comme la première fois. Moi, lorsque je lis la parole, souvent je demande à l'Esprit, fais que ce soit comme la première fois que je l'entends, pour qu'il soit rafraîchi. Et voyez ce que déjà les mots qui vont venir, que l'Esprit va mettre en avant, une observation, quelque chose qui déjà jaillit au moment de la lecture. Vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça ? De toute façon, le texte, vous le connaissez, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, je vous invite à nous recueillir. Seigneur, nous ouvrons ce temps de partage à ta présence, à la présence du Dieu vivant. Et nous ouvrons aussi nos cœurs et tout notre être intérieur à la visite du Saint-Esprit, en lui permettant de circuler, de souffler en tout lieu. Que cette parole soit féconde, porte du fruit pour l'éternité. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Un petit peu plus loin dans le texte, en ce temps-là, Marie se leva et marcha en hâte dans le pays montagneux vers une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth en l'embrassant. Alors, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre et elle fut remplie de l'Esprit-Saint. Et elle poussa un grand cri et dit, « Béni tu l'es parmi les femmes, béni est le fruit de ton sein. Et pourquoi m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car voici, lorsque la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, mon bébé a bondi de joie dans mon ventre. Bienheureuse celle qui a cru ce qui a été dit de la part du Seigneur, et elle trouvera son accomplissement. Et Marie dit, mon âme célèbre le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a tourné les yeux vers sa modeste servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant, le Très-Haut, a fait pour moi de grandes choses. Oui, saint, saint est son nom. Sa bonté s'étend d'âge en âge sur ceux qui le respectent. Il a déployé toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles et les affamés. Il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son enfant, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité pour toujours. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle rentra à la maison. Une rencontre, une belle rencontre entre deux femmes enceintes, et on pourrait dire, mais quoi de plus banal ? Deux femmes enceintes qui se rencontrent, c'est assez naïf, elles parlent de leur bébé. Et pourtant là, on voit et on pressent quelque chose de l'extraordinaire de Dieu, de l'extraordinaire de cette rencontre, puisque cette rencontre-là change la face du monde. Cet événement-là, ces deux femmes porteuses d'un fruit, changent notre histoire. Dieu visite les hommes. Dieu descend parmi les humains que nous sommes. C'est Luc qui raconte cette histoire. Et il est le seul à la raconter parmi les 4 évangélistes. Et c'est important de le noter, parce que comme vous le savez très bien, Luc, lui, n'était pas un disciple de Jésus. Il n'a pas suivi Jésus comme Matthieu, Pierre et tous les disciples. Mais il semblerait que Luc a été très interpellé assez tôt après le départ de Jésus à l'ascension. Et il va faire des enquêtes assez poussées, journalistiques. Il était médecin, donc Luc, on le voit dans l'acte des apôtres. Et il va interviewer un peu les gens pour savoir ce mystère, cette chose qui s'est passée en la venue du Christ. Et c'est donc lui qui nous rapporte cette rencontre, cette histoire. Et la première chose qu'il fait, vous avez remarqué, il la situe dans le temps, au temps d'Hérode. Il y a un temps historique qui est situé. Et c'est très important pour nous aujourd'hui, parce que cela nous montre que ce n'est pas une fable, que ce n'est pas quelque chose que les anciens nous ont raconté. Ce n'est pas une histoire racontée comme ça. C'est un fait historique parce que Jésus n'est pas un mythe. Et ça, de nos jours, ça me semble important de le répéter. Bien sûr, en tant que chrétien, on dira « oui, mais bon, nous, on le sait ». Mais c'est très important parce qu'il est venu véritablement comme homme parmi les hommes. Il est né bébé, il a été conçu et il est situé dans une lignée historique qui est à ce moment-là quand Luc nous dit au temps d'Hérode. Dans le temps, dit-il, dans ce temps. Là, les deux temps se croisent. D'un côté, il y a le temps historique, chronos, que nous connaissons, qui vient de chronomètre, vous l'entendez, et Luc était donc grec, son évangile est écrit en grec. Donc il y a ce temps chronos, c'est-à-dire que nous, on sait que c'est la date telle et telle, telle année, tel jour. Et de l'autre côté, la parole souvent nous parle au temps voulu. Les deux temps, ici, se croisent. D'un côté, il y a le temps historique, et de l'autre, au temps voulu de Dieu, le temps kairos. Ces deux temps viennent en conjonction et se croisent. Le temps voulu de Dieu, c'est-à-dire le temps où lui, dans toute sa sagesse, dans la vision qu'il a du monde, dans toute sa science complète et parfaite, il sait quand c'est le bon moment. Et c'est ainsi dans nos vies, vous le remarquerez. Pourquoi les choses se passent à certains moments ? Il y a des choses qu'on ne pourra jamais contrôler, ou peu contrôler du moins. Il y a le temps chronos, à un moment donné, nous naissons, et puis il y a le temps où on va s'en aller, un temps choisi qu'on ne sait pas. Et tout cela se regroupe. Tout est juste et bon parce que les deux conjonctions font que l'événement a lieu. Et c'est ainsi que Jésus est né. Au temps parfait de Dieu, c'était juste. C'était le bon moment. Combien de choses, peut-être, nous pouvons regarder en arrière et dire, quand cet événement-là est arrivé dans ma vie, je ne l'ai pas compris. Mais maintenant, rétrospectivement, c'était le bon moment que ça arrive. C'était juste, c'était bon, c'était douloureux, mais comment j'ai pu le surmonter parce que les forces m'ont été données. C'est ainsi que Dieu travaille pour nous. Ensuite, il y a les personnes, et c'est d'elles que nous allons parler. D'une part, Élisabeth, que nous connaissons, et là aussi, Luc, vous avez remarqué, fait la généalogie d'Élisabeth. C'est très rare pour les femmes dans la Bible. Elle est descendante d'Aaron, de la lignée d'Aaron. Et vous vous souvenez qui est Aaron? Aaron est le grand prêtre. C'est pratiquement l'égal de la lignée royale. Ce n'est pas n'importe qui. En plus, elle a épousé un prêtre aussi, qui venait de la lignée d'Abia. Et que cette année-là, il avait été tiré au sort, grand honneur fait au prêtre, pour se rendre dans le lieu très saint. Élisabeth est la grande dame de Jérusalem qui vit au temple, au milieu, qui est au milieu de Jérusalem, le temple de Salomon. Il nous est dit qu'elle a une foi pieuse, qu'elle et son mari observent tous les commandements, c'est même précisé à la perfection, et qu'ils sont irréprochables. Et puis, ça suit avec un « mais ». Mais, elle était stérile. Et puis, c'est comme si, en entend, « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Le questionnement, pourquoi la foi d'Élisabeth et Zacharie n'a pas trouvé réponse? Et vous savez que particulièrement dans ce temps-là, tu peux le cas encore aujourd'hui, c'était une malédiction de ne pas enfanter. Nous nous rappelons l'histoire de Anne, nous savons l'histoire de la femme d'Abraham, nous connaissons la, etc. Beaucoup d'histoires par rapport à la stérilité. Pourtant, une foi irréprochable, nous dit le texte. Et je me dis, en m'identifiant à Élisabeth, je me dis, elle a dû se poser bien des questions, comme nous, en tout cas comme moi, comme nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Et peut-être aussi qu'on peut tomber dans le piège de la foi rétribution, de dire, mais Seigneur, je fais tout juste, j'observe tous tes commandements, je suis là, je suis une femme qui est au milieu de cette ville, femme d'un prêtre, je fais des bonnes œuvres, je prie, etc. Vous savez, ce système de rétribution, le Seigneur devrait me donner. Je fais juste, donc le Seigneur devrait me donner. On a tous cette tentation, on a tous cette pensée qui, humainement parlant, est légitime. On peut se poser les questions. Rien de mal aux questions, ce n'est pas un péché de se poser ces questions. C'est comme un peu plus tard, lorsque les disciples, avec Jésus justement, vont rencontrer, vous savez, cet aveugle-né. Vous vous souvenez de l'histoire? Et première question qu'ils vont poser, ils disent, mais Seigneur, c'est qui a péché? C'est lui, c'est ses parents, c'est ses grands-parents, c'est qui a péché? Et Jésus dira, mais non, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Il y a la grâce de Dieu qui agit. C'est ça. Cet homme, aujourd'hui, sera guéri pour démontrer combien Dieu est miséricordieux, plein de grâce et plein de compassion. Et il ne s'agit pas de poser sur Dieu notre image, parce que c'est peut-être de ça que nous renvoie ce texte. Quelle est l'image que je donne à Dieu? Est-ce que j'ai un Dieu qui récompense, comptable, et je fais mes petits comptes, voilà, j'ai fait ça, donc il devrait me donner ça? Est-ce que j'ai un Dieu qui me demande du sacrifice? Est-ce que j'ai un Dieu... Quelle image? Quelle est mon image que j'ai collée à Dieu? C'est la question qui est ouverte pour nous, pour chacun. Légitime, légitime. De l'autre côté, nous avons Marie, une parfaite inconnue. Jusque-là, Marie, on n'en a jamais entendu parler. On ne nous parle pas d'où elle vient, pas de généalogie. en tout cas pas dans ce contexte-là. On ne sait pas qui elle est. En plus, le texte nous dit qu'elle était naïve et jeune, sortie de la campagne, elle n'habite pas du tout Jérusalem, et Marie va avoir cette visitation de l'Esprit, va concevoir ce que toutes les femmes d'Israël attendaient, va concevoir le Messie par le Saint-Esprit. Marie et Élisabeth se rencontrent à un moment donné. La foi de Marie, simple, on pourrait presque dire naïve, une foi spontanée, intuitive, puisqu'elle va donner ce oui à Dieu, et nous connaissons ce oui de Marie, qu'il soit nos oui aussi, ce oui qui va la faire concevoir ce Messie qui va changer la face du monde et notre histoire. Ces deux se rencontrent et s'embrassent. Il n'est pas question de juger la foi de l'une contre la foi de l'autre, parce que tantôt, nous avons ces deux fois en nous. Tantôt, j'ai besoin de la foi, oui, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin peut-être d'être un petit peu plus légaliste. Il n'est pas question de la juger. Et puis, j'ai des fois cette foi spontanée qui me fait crier ce « Oui, Seigneur !» et qui me permet d'aller plus loin. Ces deux fois s'embrassent, se rencontrent et s'embrassent. Et voyez, quelle belle chose il se passe avec Élisabeth. On pourrait presque dire, une fois légaliste, mais quelle ouverture à l'esprit! Une magnifique ouverture! Elle, Marie lui a encore rien dit. Marie l'embrasse, la salue, et le Saint-Esprit sursaute en elle. Elle dit, mais c'est incroyable ce qui t'arrive! Mais c'est incroyable! Et une louange monte vers Dieu, parce qu'elle va reconnaître en Marie la mère du Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, Marie ne lui avait encore rien dit. Et ça, c'est ce que fait la rencontre des uns et des autres. Parce que ce n'est pas juste deux personnes qui sont en train de se rencontrer. On est bien d'accord. Ils sont quatre à ce moment-là. Toutes deux porteuses, non seulement d'un message qu'elles se donnent, mais surtout porteuses du messager, comme nous. Nous sommes à chaque rencontre porteurs, porteuses, non seulement d'un message, mais surtout du messager en nous. Et c'est ça qui fait sursauter l'esprit chez l'autre, même s'il n'a jamais entendu parler du Seigneur ou qu'il ne veut rien savoir. C'est ça le mystère. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Alors voyez, mes rencontres ont changé depuis. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me pose la question et je sais que le messager est là. C'est pourquoi, lorsqu'on m'a demandé le titre tout à l'heure, j'ai demandé que ce message soit appelé « Des rencontres qui portent du fruit ». Parce qu'elle porte ce fruit d'éternité. Il était très important pour Marie d'être authentifiée par Élisabeth. Ça aussi, nous le faisons dans nos rencontres. Parce que, nous l'avons dit, aux yeux humains, Marie était une parfaite inconnue, enceinte hors mariage, nous connaissons l'histoire, et il fallait que quelqu'un d'autorité, quelqu'un de notoriété comme Élisabeth, la femme de Jérusalem au centre de la ville, dont la prêtrise, puisse l'authentifier comme la mère du Seigneur. C'était important pour que tous le sachent. Et c'était important pour Marie, sinon elle serait restée une mère célibataire, adultère, et son enfant, pardonnez le terme, un bâtard. C'est important que ce qui est conçu au-dedans de nous par Dieu puisse être authentifié à la lumière du Seigneur. Combien de projets et de désirs que le Seigneur a plantés dans nos cœurs restent des bâtards parce que non authentifiés. parce que non partagé, parce que non mis en œuvre. On voit ce que Marie fait. Elle reçoit l'annonce. Et puis à la fin, l'ange glisse. La parole, elle est vraiment très humoristique des fois. Juste comme ça, à la fin, il dit, « Tu sais, Marie, ta cousine Elisabeth là-bas, elle est enceinte aussi. » Elle ne lui dit rien du tout, puis s'en va. Mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Marie, le texte nous dit précisément, se lève, marche avec hâte. Elle va voir tout de suite Elisabeth. Et dans la pensée sémitique, parce que même si Luc est grec, il est quand même dans le contexte sémitique, c'est-à-dire juif, se lever, c'est le commencement de quelque chose. Chaque fois qu'on voit dans la parole, dans ce contexte de se lever, c'est le commencement. Je commence, je fais une action pour que le projet se fasse. Marcher, on marche dans la Bible selon le plan de Dieu. Il marchait devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Il marchait ensemble avec Jésus au bord du lac. C'est dans le plan de Dieu. Ça implique cette idée de marcher avec Dieu. Avec hâte, nous dit encore le texte. Déterminé par la force du Saint-Esprit, avec foi, la foi qui déplace les montagnes, puisqu'il nous est dit que le paysage est montagneux. Détail, pas tant que ça de détail. Le paysage est montagneux, mais vous savez quoi? Je vais aller le vérifier. Cette contrée-là n'est pas montagneuse. Mais c'est montagneux parce que parfois il y a les difficultés. Mais Jésus nous l'a dit, il vous suffit d'une foi comme le grain d'une moutarde pour déplacer les montagnes. Donc ce chemin de Marie est montagneux. Elle a rencontré des difficultés certainement. Elle a rencontré les doutes, elle a rencontré les choses sur son chemin. C'est pourquoi il est montagneux, nous dit le texte. Et c'est ça qui l'a fait rencontrer Élisabeth. La parole de Dieu donnée, entendue, prend forme et nous met en route. Elle nous met en marche vers des lieux qui ont du sens. Elle n'est pas allée n'importe où, Marie. Elle avait bien entendu que l'ange avait glissé, tu sais, ta cousine, elle est enceinte. Elle savait bien qu'il y avait là quelque chose qui allait se passer, quelque chose qui allait l'aider. Et ça la met en route. En réponse à ce que le peuple d'Israël attendait, à ce que l'humanité attendait, il y a justement Marie qui va spontanément chanter ce chant qu'on appelle communément le Magnificat, en louange de ce qui se passe une fois qu'elle est authentifiée dans sa mission. Et ça vient justement à l'encontre de la légalisation peut-être qu'on avait fait de la foi, où là, tout d'un coup, elle chante ce Dieu de grâce qui va prendre le visage de son enfant. Elle va chanter la miséricorde de Dieu pour son fils Israël, pour ses fils et ses filles, nous, aujourd'hui. Elle va chanter la compassion de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu a comme projet. C'est de montrer par Jésus ce visage-là. Non pas le Dieu rétributeur, comme si le Dieu des sacrifices, le Dieu, et toutes sortes d'images qu'on pourrait mettre, mais le Dieu de grâce, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'amour, le Dieu qui est venu à la rencontre des hommes et des femmes, ce Dieu-là. Et Marie le chante. Et puis, il y a le silence. Le texte se tait. Il est juste dit, Marie demeura 3 mois environ avec Élisabeth. Mais rien ne nous est raconté. Rien ne nous est dit. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Est-ce qu'elles se sont encouragées? On ne sait pas. Et c'est bon ainsi. Parce que cela laisse la place. Laisse à nous, aujourd'hui, la place de la gestation de nos propres projets de Dieu. De nos propres messagers en nous. Quelle forme le Christ prend en nous. Parce que pendant ces 3 mois, l'enfant grandissait. comme grandissent les projets, comme grandissent les désirs. C'est important qu'elles soient ensemble. C'est important qu'elles se rencontrent. C'est important qu'elles s'encouragent, qu'elles prient les unes pour les autres. C'est important pour Zacharie. Nous en avons presque pas parlé parce que Zacharie n'a rien pu dire, nous le savons, de voir ce grand miracle. C'était important ensuite pour Joseph qui va élever le Christ. C'est important pour nous, aujourd'hui qui entendons cette parole. C'est important de savoir combien ces rencontres sont précieuses. Chaque fois qu'on se rencontre, chaque fois que j'en rencontre un semblable, je ne suis pas seule à le rencontrer. Il y a toujours le messager. Il y a toujours cet enfant de Dieu que je suis en moi. Et voyez comme les choses se répètent. Élisabeth a été celle qui a montré le chemin à Marie, qui va l'authentifier, qui va la rassurer, qui va confirmer par l'esprit quelque chose. Et son enfant Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin du Seigneur, de Jésus. Ça se transmet, ça nous fait penser à ça. Nous, vous, tous ceux qui sont peut-être parents, mais même si nous ne sommes pas parents, de ce que nous transmettons et de comment nous le transmettons. Il y a quelque chose qui se transmet, il n'y a rien qui se perd comme ça dans les airs. Mais ça se transmet. Élisabeth le fait, son fils va prendre la relève et il sera le précurseur, celui qui ouvre le chemin pour le Messie, celui qui va entrer en Israël et qui va proclamer cette année, ce temps, on dit une année, mais c'est le temps de Dieu de grâce. Et c'est de cela que cette rencontre-là nous parle. Nous ne savons pas, lorsque nous rencontrons les uns et les autres, ce qu'il se passe. Nous ne le savons pas. Nous devons entrer dans ce mystère de l'esprit. Et je suis sûre que ça vous arrive, comme ça m'arrive, que quelqu'un nous dise, « Tu sais, ça m'a fait tellement de bien de te voir. » Pourtant, c'est une rencontre toute simple, naïf, comme ces deux femmes qui se rencontraient au départ. Ou lorsqu'on nous dit, « Tu sais, mais qu'est-ce que tu m'as dit ? Ça m'a vraiment fait bouger. » Mais moi, je me rappelle même plus ce que j'ai dit. Ça nous arrive à tous. Nous ne savons pas ce que cela peut faire, mais faisons-le. Et cela rejoint certainement, ce sera la conclusion, cette parole que Jésus lui-même dira, « Lorsque deux se rencontrent, je suis là. » Lorsque deux se rencontrent sur cette terre, je suis là. C'est pas merveilleux, ça? Ça nous donne pas toute une grande dimension de c'est pas juste comme ça. Dieu est là. Ce qu'on pourrait voir comme une banalité devient un miracle extraordinaire. Et c'est de ça que cette rencontre me parle et que j'espère vous parle aussi.